Donc voilà, la question qui est posée ce soir, c'est la religion n'est-elle qu'une superstition? Voilà, c'est une question assez délicate dans la mesure où la religion va toucher à l'intime, à un ensemble de choix que les uns les autres nous faisons ou nous ne faisons pas, et qui sont de l'ordre de la décision personnelle, de la décision intime. En tous les cas, la première remarque que je voulais faire en début d'introduction, c'est que le phénomène religieux est un phénomène de toujours. On pourrait dire l'homme est un animal religieux, naturellement religieux. Et Mircea Eliade, qui est un philosophe roumain, qui a beaucoup écrit sur la question, nous parle de l'homme primitif comme de celui qui va rythmer sa vie à travers un certain nombre de rites divers et variés, qui vont être révélateurs de son lien particulier avec des puissances transcendantes et avec un monde qu'il va qualifier de plus réel que le monde observable. Il va y avoir une distinction entre le monde sacré et le monde profane. D'un côté, le monde profane, qui est un monde, on pourrait dire, de l'impermanence, du mouvement, où tout se perd, qui est imparfait, qui est éphémère. Et puis de l'autre, le monde sacré, qui est, on pourrait dire, tout l'inverse, qui est éternel, permanent, et parfait. Et voilà ce qu'il nous dit, ce que constate Mircea Eliade. L'homme religieux, dit-il, assume une humanité qui a un modèle transhumain, transcendant. Il ne se reconnaît véritablement homme que dans la mesure où il imite les dieux, les héros civilisateurs ou les ancêtres mythiques. Bref, l'homme religieux se veut autre qu'il ne se trouve être sur le plan de son expérience profane. Et donc les deux termes que je retiens ici, c'est le fait pour l'homme religieux d'assumer une humanité qui a un modèle transhumain, cette idée de modèle, et qui invite évidemment à une action qui est celle de l'imitation. Il imite les dieux, il imite les héros civilisateurs, et sa vie va s'organiser, on pourrait dire, en fonction de cette autre vie. Ça va d'ailleurs structurer peu à peu les cités, ça va constituer le ciment d'une nation. On sait l'importance de la religion chez les Grecs, et on sait que Socrate a été condamné à mort pour impiété. Alors bien sûr, c'est une fausse accusation, mais ce qui est vrai, c'est que l'impiété est un crime très grave. Et pour l'homme religieux, la folie consisterait justement à placer l'absolu dans le fini et l'éternel dans le temporel. Et je recite à nouveau Antigone, que j'aime particulièrement. Lorsque elle parle de la mort qui l'attend, elle dit cette réplique à Créon: Non, le sort qui m'attend n'a rien qui me tourmente. Si tu estimes que je me conduis comme une folle, peut-être n'as-tu rien à m'envier sur l'article de la folie. Et cette citation, je la retiens parce que il y a une espèce de confrontation entre deux folies. La folie d'Antigone, qui consiste justement à défier les lois de la cité. Aux yeux de Créon, c'est une folie que de perdre sa vie à cause de cela. De l'autre côté, il y a la folie pour Créon, enfin la folie qu'Antigone juge chez Créon, qui est justement de défier les lois divines. Et donc, il y a une espèce d'incompréhension mutuelle entre le croyant et l'athée, disons, ou celui qui ne croit pas. À tel point qu'effectivement, on pourrait se demander, deuxième point de mon introduction, on pourrait se demander si effectivement s'allier des puissances invisibles par des incantations, des danses, des rites, des sacrifices, des prières, des cierges allumés, est-ce que c'est pas entrer dans un ordre qui serait l'ordre de la superstition? C'est-à-dire, finalement, l'homme a besoin de se rassurer par rapport à ce qu'il ne domine pas, par rapport à ses angoisses. Et alors, du coup, est-ce qu'il s'invente pas tout un réel? Réel d'ailleurs qu'il maîtrise d'une certaine façon. Qu'il maîtrise d'une certaine façon. Épicure dénonçait justement l'imposture d'un arrière-monde. Si on reprend la pensée de Lucrèce qui exprime ça assez bien, eh bien, il nous dit si la peur accable ainsi tous les mortels, c'est qu'ils observent sur la terre et dans le ciel 1000 phénomènes dont les causes sont cachées et qu'ils attribuent à la volonté divine. ici serait une superstition parce que, d'une certaine façon, la religion serait le refuge de l'ignorance. Et donc, il faudrait que, de ce point de vue-là, l'homme se délivre de tout ce cortège de pensées toutes faites, de rites, qui sont extérieurement, apparemment, ridicules, et qui tue en plus en lui sa capacité de penser par lui-même. Car évidemment, la religion va s'accompagner d'un ensemble de pensées, de doctrines, qu'on pourrait appeler des dogmes, des vérités à croire. Et est-ce que ces vérités à croire ne s'opposent pas à, justement, l'usage qu'on pourrait faire de notre raison, et usage qui nous indique qu'il ne faut peut-être tenir pour vrai que ce que la raison est capable d'appréhender. Ou en tous les cas, d'essayer de juger entre ce qu'il y a de rationnel et ce qu'il y a d'irrationnel. La superstition et la religion étant mis dans le même package, eh bien, serait de l'ordre de l'irrationnel. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il ne faudrait pas se délivrer au plus vite de la religion ? Ou bien, toujours dans mon introduction, la superstition, est-ce qu'elle n'est pas la caricature de la religion ? À l'inverse. Est-ce que finalement, la superstition ne serait pas une caricature ? C'est-à-dire que le superstitieux, il est crédule, il croit que, selon une distinction que vous pouvez d'ailleurs entendre sur le site, puisque les conférences sont en ligne, une conférence de Jean-Noël Dumont sur « Peut-on transmettre la foi ?» Est-ce que l'homme crédule, c'est pas celui qui croit à tort un peu vite que les choses sont telles qu'il les pense, alors que le religieux, lui, serait croyant ? Et on trouve ça d'ailleurs chez Maurice Blondel qui nous dit ceci : à l'inverse de l'homme religieux, le superstitieux veut avoir Dieu à soi sans être à lui et capter les forces mystérieuses pour des fins égoïstes. Donc, avoir Dieu à soi sans être à lui. Et de ce point de vue-là, il y aurait le superstitieux qui serait égoïste, en fait, qui serait égocentrique, tandis que le religieux, lui, serait davantage dans la relation. Le croyant est dans un ordre de la relation. Mais alors, justement, quelle est la vérité de cette relation à Dieu ? S'il y a relation au divin, s'il y a une relation à un Dieu, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'elle n'est pas simplement imaginaire ? Est-ce qu'elle n'est pas toujours entachée, finalement, de nos projections ? Est-ce que, finalement, cette relation ne crée pas Dieu à notre image ? Ce qui serait lui rendre la monnaie de sa pièce, il nous a créé à son image, on le lui rend bien et on le crée à notre image. Selon, on pourrait dire, nos désirs, peut-être nos angoisses également. Alors, comment sortir de cette opposition ? Dernier champ de question, est-ce que, la relation de l'homme à Dieu, pour sortir de la superstition, est-ce que ce qui sauverait de la superstition, ce ne serait pas la révélation ? Le concept de révélation et la réalité de la révélation. Mais à ce moment-là, la révélation nous fait entrer dans un autre ordre de questions, à savoir que Dieu ne se donne pas comme une évidence. Il, on pourrait dire, exige, ou il est exigé du croyant, une adhésion libre qu'on appelle la foi. Et de ce point de vue-là, est-ce que la foi ne prend pas le pas sur la raison ? Comment, justement, penser le rapport raison-foi pour que d'un côté, la raison puisse comprendre et adhérer, et de l'autre, que la liberté de l'homme soit laissée sauve. Parce que si Dieu se révèle à l'homme, à nous, il ne peut pas faire l'impasse de notre liberté. La réponse n'est pas celle d'un automate. Comment articuler alors ces deux dimensions ? Et du coup, finalement, est-ce que en laissant sauve la liberté de l'homme, la révélation et la religion, d'ailleurs, ne se condamnent pas à avoir toujours au moins l'apparence de la superstition. Voilà l'ensemble des questions que je vais essayer de traiter ce soir, en commençant par tout simplement un premier point sur la religion vue comme une superstition. Voilà, ça va? Alors, en premier lieu, il faudrait qu'on définisse la superstition. Pour ça, je me réfère, dans un premier temps, au dictionnaire philosophique Lalande, le dictionnaire classique de la philosophie. Et on trouve ceci. État d'esprit de celui qui croit à tort que certains actes, certaines paroles, certains nombres, certaines perceptions portent bonheur ou portent malheur. Ce qui est intéressant dans cette définition simple, sobre, c'est le fait que la superstition a un sens péjoratif. C'est celui qui croit à tort. Celui qui croit à tort que certains actes, certains événements portent en eux une intentionnalité. Et justement, c'est à tort parce que la réalité en est totalement dénuée. C'est pour ça qu'on dit qu'il est superstitieux. Le fait de briser un miroir dirait un stoïcien, pourquoi est-ce que tu te troubles de savoir si ça porte 7 ans de malheur? Le miroir est brisé, le miroir est brisé, tout simplement. Croiser les doigts ou toucher du bois, ça n'a jamais fait changer le cours des choses. Si vous passez sous une échelle sur laquelle est perché un chat noir un vendredi 13, vous risquez de prendre une tuile. Mais je ne sais pas si c'est l'imprudence de passer sous une échelle où on change les tuiles du toit, ou bien, effectivement, on aurait dû lire dans les événements ce qui allait arriver. Et sous le mode de la plaisanterie, d'ailleurs, on dit souvent que être superstitieux, ça porte malheur. Voilà. Donc voilà, une fausse croyance, hein, une crédulité, comme on y reviendra sur ce mot un peu plus loin. Et Lalande va poursuivre en disant, plus généralement, toute croyance, et surtout toute croyance religieuse, donc il y a une assimilation ici, considérée par celui qui parle comme une erreur et une faiblesse d'esprit. La superstition est considérée par celui qui en parle comme justement, qui définit la superstition, comme une erreur et une faiblesse d'esprit. Et la superstition ici est assimilée, ou la religion, la croyance religieuse est assimilée à ce système-là. Et il continue en disant « La superstition procède de l'impression que lorsque l'homme a usé de toutes les ressources que l'expérience, la science, la réflexion critique ont pu employer pour comprendre une réalité, eh bien il reste encore et toujours des éléments réfractaires à toute explication. Et que ces éléments réfractaires à toute explication, eh bien, la tentation est grande, on pourrait dire, de recourir à des recettes magiques selon les vues intéressées, qui va permettre, justement, soit d'expliquer, soit de mettre de son côté un certain nombre de choses. Ce qui permet de comprendre que le superstitieux, finalement, ramène à lui, comme l'exprimait Blondel, la citation de Blondel au début, l'homme, le superstitieux veut avoir Dieu à soi sans être à lui et capter les forces mystérieuses pour des fins égoïstes. Et on va retrouver ça dans l'étymologie du mot superstitieux qui n'est pas avéré, comme d'ailleurs on le verra celle de la religion qui ne sont pas avérées, il y en a plusieurs. Superstition viendrait de superstare, le superstar. Bon, je vous laisse apprécier la vanne. Mais voilà, le superstaré. C'est-à-dire, au sens trick, on le traduit souvent par se tenir debout. Voilà. Se tenir debout. Moi, j'y ajoute, superstaré, c'est demeurer au-dessus. Il y a l'idée dans la superstition qu'on va pouvoir dominer justement ce qui échappe. On va dominer ce qui échappe. C'est bien parce que ça échappe. C'est bien parce qu'on a le sentiment que ça échappe, qu'on veut le dominer. Et que, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y aurait, à l'origine de la superstition comme de la religion, justement, une sorte de réponse à ce qui nous échappe. Et c'est là où je fais référence au premier texte que je vous ai mis entre les mains, qui est un texte assez classique, sur lequel je vais faire quelques commentaires. De Freud, dans L'avenir d'une illusion, où il dit ceci, les idées religieuses sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l'humanité. Le secret de leur force est la force de ces désirs. Nous le savions déjà. Alors, donc ça, c'est la thèse. Finalement, c'est des illusions parce qu'ils vont réaliser des désirs inconscients qui datent de, notamment de la petite enfance. Nous le savions déjà. Alors, il va donner trois sources. Il va y avoir trois sources à la religion qui manifeste que c'est une illusion. Nous le savions déjà. L'impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d'être protégé. Protégé en étant aimé. Besoin auquel le père a satisfait. La reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie a fait que l'homme s'est cramponné à un père cette fois plus puissant. Donc ce serait la première source qu'on pourrait exprimer par la faiblesse de l'homme. C'est vrai que l'homme est faible, qu'il ne faut pas grand-chose pour le tuer. Une vapeur, une goutte, dit Pascal, suffit. On l'expérimente à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles qui emportent de façon sidérante des milliers, ou des dizaines de milliers, ou des centaines de milliers de vies humaines. Et à ce moment-là, effectivement, on a tendance, d'ailleurs quand c'est le cas, à demander des comptes à Dieu, à se retourner vers le divin, vers Dieu lui-même, en lui demandant ce qu'il fait. Et on pourrait dire en amont, Mircea Eliade nous dit également que l'homme primitif ne doute absolument pas de son pouvoir de s'adjoindre les forces de la nature pour la réussite de son entreprise. C'est-à-dire ce qui paraît impossible pour l'homme parce qu'il est trop faible est possible pour Dieu, il est tout puissant, et grâce à la religion, on va s'adjoindre cette puissance. Et donc ce serait une des origines de la religion qui s'expliquerait par simplement notre condition de faiblesse native. Deuxième, l'angoisse humaine en face des dangers de la vie s'apaise à la pensée du règne bienveillant de la providence divine. L'instauration d'un ordre moral de l'univers assure la réalisation des exigences de justice, si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines, et à la prolongation de l'existence terrestre par une vie future, fournit les cadres du temps et le lieu où ces désirs se réaliseront. La deuxième source serait l'angoisse des dangers de la vie et ultimement de la mort. C'est-à-dire que la religion, et en ce sens-là, c'est une superstition puisque c'est irrationnel, apaiserait les angoisses liées au danger de la vie. Il y aurait, on pourrait dire, si on agit comme l'entend la divinité, alors en retour on sera protégé. C'est la divine providence. Il y a ces six études là de Festugière sur qui s'appelle De l'essence de la tragédie grecque, mais qui regroupe plusieurs conférences tout à fait intéressantes, notamment. Une sur la religion grecque, où effectivement les dieux peuvent tout, ils sont omniscients, et dès lors c'est à eux qu'on doit s'adresser pour répondre à l'ensemble de nos questions et à l'ensemble de nos angoisses. Et il y en a un certain nombre qui sont intéressantes, qui sont d'ailleurs assez concrètes pour savoir si oui ou non il faut se marier, si oui ou non il faut acheter telle ou telle chose, on n'a pas l'assurance, on est angoissé ou ceci ou cela. Bien. Troisième point, des réponses aux questions que se pose la curiosité humaine touchant ces énigmes, la genèse de l'univers, le rapport entre le corporel et le spirituel, s'élabore suivant les prémices du système religieux. Et donc la troisième source serait l'ignorance. L'ignorance des causes, le divin devenant justement le refuge de l'ignorant. Les dogmes expliqueraient finalement tout. Et comme conclut Freud, et c'est un formidable allègement pour l'âme individuelle que de voir les conflits de l'enfance émaner du complexe paternel, lui être pour ainsi dire enlevé et recevoir une solution acceptée de tous. Voilà, un allègement par rapport aux questions que l'homme se pose. Alors on pourrait dire qu'il est urgent alors de libérer l'homme de ses angoisses, de ses superstitions, de son endormissement, de son sommeil coupable, on pourrait dire. Et il est intéressant de voir que le monde moderne va apporter des réponses aux différentes sources évoquées par Freud, que j'ai regroupées donc en trois, la faiblesse de l'homme, les angoisses par rapport au danger de la vie et ultimement de la mort, et l'ignorance. Et qu'en apportant des réponses à ces trois niveaux, il est intéressant de voir, en tout cas moi ça me fascine, de voir la montée finalement d'un monde athée. L'athéisme monte en même temps que les réponses arrivent. Alors à la faiblesse, le monde moderne va répondre par le développement technique. L'homme va dominer le monde, c'est l'aspect démiurgique de l'ère industrielle. Le démiurge faisant référence à ce dieu dans le Timée qui va organiser la matière, qui va organiser le chaos, lui donner forme, bien, en fonction d'un modèle qu'il contemple. Ici, c'est l'homme qui, par sa puissance, par son pouvoir et par son ingéniosité d'ailleurs, tout à fait remarquable, va pouvoir lutter contre ce qui paraissait être hors de portée auparavant. Un certain nombre de maladies, la lutte contre des éléments de la nature, la capacité à prévoir des catastrophes, à les progrès dans l'ordre de la maîtrise des matériaux, qui fait que d'ailleurs il y a des inégalités dans le monde par rapport aux catastrophes naturelles, entre les centaines, je crois, de milliers de morts en Haïti et les dizaines de milliers de morts au Japon, eh bien, il y a aussi toute la maîtrise technique qu'on peut voir au Japon, qui est relative, puisqu'il y a eu aussi l'aspect nucléaire qui est venu ternir les choses. Mais voilà, c'est intéressant de voir effectivement que l'homme a la capacité de répondre à la faiblesse, à sa propre faiblesse, et que de ce point de vue-là, il n'a plus besoin d'avoir recours à des puissances magiques, à des puissances occultes, mais il peut le faire par son propre génie. À l'angoisse des dangers de la vie, la technique va aussi y répondre et l'homme va trouver, on pourrait dire, dans le développement de la société, une sécurité qui va le satisfaire. Il n'a pas besoin d'invoquer quoi que ce soit d'autre que le progrès. Que le progrès, qui va permettre, effectivement, petit à petit, de répondre à ses angoisses existentielles et l'assurer d'une vie paisible. Et évidemment, on pourrait dire qu'à l'ignorance des causes, eh bien, va se développer la raison positive, c'est-à-dire que ce qu'on attribuait à Dieu par ignorance, eh bien, va trouver une explication rationnelle. Et si elle n'en trouve pas, eh bien, ça va venir. Il y a toujours l'idée que, pour l'instant, on ne peut pas expliquer ceci ou cela, mais on va l'expliquer parce que la raison va pouvoir percer l'ensemble des mystères et des énigmes. Et de ce point de vue-là, il n'y a plus besoin de Dieu. En tous les cas, il n'y a plus besoin d'avoir recours à une puissance qui serait une puissance refuge à tous ces niveaux. Mais alors, on devrait se trouver dans un monde où la religion et la superstition ont disparu. Ça devrait être, on pourrait dire, la suite logique. Or, le problème, c'est qu'il semblerait que, sur le deuxième point, au moins, la superstition, mais aussi sur les comportements religieux qui se cachent derrière des comportements profanes, mais qui sont calqués sur des cérémonies religieuses, voilà. Je ne m'étends pas parce qu'il faut que j'avance quand même. Il semblerait que l'homme moderne n'ait jamais été aussi crédule. Prêt à croire finalement n'importe quoi. La crédulité, c'est un défaut du croire. La crédulité, le dictionnaire dit, c'est le fait de croire à tort, de se précipiter dans son jugement et du coup de ne plus avoir de jugement sur ce qu'il y a à croire, si c'est crédible ou pas crédible. Alors que l'enfant soit crédule, on le comprend parce que finalement il manque d'expérience, il est immature et puis il manque de réflexion. Mais on le sait bien, on le voit bien avec, avec nos enfants, il est plus possible de leur faire croire à la petite souris ou je ne sais trop quoi, dès lors qu'ils raisonnent. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit une bonne chose de leur faire croire n'importe quoi, je ne pense pas. Mais en tous les cas, il y a un moment donné, ils raisonnent. Ils disent, on veut savoir le pourquoi du comment des choses. Et donc, ils sortent de cet âge de la crédulité, où ça ne les gênait pas d'avoir des explications un petit peu magiques. Eh bien, l'homme moderne semble, l'homme mûr, semble tout à fait crédule. Pourquoi dans Jean-Claude Guibaud, hein, dans La force de conviction, à quoi pouvons-nous croire, livre excellent, hein, La force de conviction, à quoi pouvons-nous croire, de Jean-Claude Guibaud, il nous dit qu'il y a, comment dire, il y a un lien entre cette crédulité et la perte de repères, perte de sens. Finalement, quand on ne trouve plus un sens à l'existence, aux choses, eh bien, on est prêt à croire n'importe quoi. Voilà ce qu'il nous dit. Rappelons d'abord que plusieurs sondages réalisés en France au début des années 2000 ont révélé une surprenante inclination des adolescents de 18 à 24 ans pour l'irrationnel en général. À 52%, ils croiraient à l'existence des rêves prémonitoires ou à la télépathie. 30 à 35% d'entre eux accorderaient du crédit à la prédiction des voyantes, aux tables tournantes ou l'envoûtement. Commentant en novembre 2002 ces chiffres inattendus, un chercheur du CNRS, Guy Michelat, écrivait « Les croyances au paranormal se développe surtout parmi ceux dont les croyances religieuses s'effritent. C'est beaucoup le cas chez les jeunes par rapport aux plus âgés. Mais sur ce terrain, il est vrai, les adolescents ne sont pas les seuls concernés, sur le terrain de la crédulité. Rien qu'en France, on évalue à 50 000 le nombre d'astrologues et de voyants qui vivent assez confortablement de leurs talents supposés. On pourrait ajouter que le réflexe assez nouveau qui consiste à voir ou à chercher du sacré partout est la variante douce d'un même besoin de magie ou de mystère. » Donc, le monde qui, on pourrait dire, a besoin d'être désenchanté grâce à la modernité, eh bien, finalement, ne produit pas forcément un homme qui est dénué de toute croyance, de tout réflexe même religieux, hein, de toute attitude religieuse, avec la difficulté, et c'est ce que je voudrais montrer maintenant, que coupé de son rapport au sacré, finalement, ses croyances s'autodétruisent. Ce serait le deuxième point. Disons, la religion n'est pas une superstition. Il me semble que l'une des grandes différences entre la religion et la superstition, c'est que l'homme religieux va prendre conscience d'un ordre sacré auquel il appartient et auquel il veut se rendre présent. Ce qui ne constitue pas du tout l'horizon de l'homme superstitieux. Si on reprend la phrase de Blondel et qu'on l'inverse, hein, l'homme religieux, à la différence de l'homme superstitieux, disait-il, à l'inverse de l'homme religieux, le superstitieux veut avoir Dieu à soi sans être à lui. Et donc on pourrait dire que l'homme religieux veut être à Dieu, d'abord. Ça renvoie au fait de vouloir se rendre présent à une relation qui est une relation à un ordre supérieur, un ordre, on pourrait dire, qui est signifiant. Mircea Eliade, encore lui, dans un de ses ouvrages, qui s'appelle « Mythe, rêve et mystère », nous dit ceci. « Dans toute société traditionnelle, n'importe quel geste responsable, reproduisait un modèle mythique et par conséquent se déroulait dans un temps sacré. Le travail, les métiers, la guerre, l'amour étaient des sacrements. Cette existence sacralisée, ouverte sur le grand temps, pouvait être maintes fois pénible, elle n'en était pas moins riche en signification. C'est intéressant comme phrase. C'est-à-dire que les gestes, on pourrait dire, ce qu'il appelle les gestes responsables, hein, il les nomme travail, métier, guerre, amour, étaient des sacrements. Dans les sociétés traditionnelles, pas simplement chrétiennes, on y viendra, mais dans les sociétés, l'homme religieux. On voit ça de façon tout à fait remarquable. Quand j'ai découvert ça, bah, j'étais tout à fait fasciné et stupéfait. On voit ça dans les travaux et les jours d'Hésiode. C'est très intéressant parce qu'il montre comment, effectivement, le travail et le travail des champs, surtout, permet constamment de se mettre en présence de la divinité et de lui rendre hommage. Et que justement, c'est celui qui ne fait rien qui est, comme il dit, celui qui ne fait rien espère n'importe quoi. Il se dit à lui-même des injures. Voilà, l'impie. Et donc, les gestes, et les gestes, on pourrait dire, du quotidien, vont prendre une signification qui est en rapport avec quelque chose, une signification qui dépasse l'ordre du monde ou l'ordre du profane. Et cet ordre-là, qui est séparé, c'est un ordre sacré. C'est l'ordre du sacré. Cet ordre-là revêt plus d'importance que celui du monde. Et on le voit notamment avec Antigone, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, il ne s'agit pas de superstition, parce qu'il s'agit d'une conscience de quelque chose qui dépasse infiniment l'homme. L'homme est en lien avec ce qu'il dépasse. Il croit en quelque chose, il va faire alliance. Et c'est l'une des significations supposées de l'étymologie du mot « religion », qui veut dire religare, hein, qui vient de religare, qui voudrait dire relier, un lien qui est, on pourrait dire, de trois ordres. Un lien d'obligation avec certaines pratiques, un lien entre les hommes d'une même foi et un lien avec le divin. Un lien donc avec un certain nombre d'obligations pratiques, un lien par les rites, on pourrait dire, un lien entre les hommes d'une même foi et un lien avec le divin. Il est vrai qu'il est plutôt rare d'avoir une communauté de superstitieux, plus souvent une communauté de religieux est possible. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans la religion qui est une dimension communautaire qui va célébrer le divin, qui va célébrer Dieu, hein, et qui va s'y rendre présent, et ça va faire sens certes dans la relation individuelle, mais aussi communautaire. Et de ce point de vue-là, alors évidemment, il y a un ordre. On pourrait dire que ce qui est premier, c'est le lien avec le divin. Et il me semble que l'exemple des 10 commandements est assez intéressant. Parce que dans les 10 commandements, on a bien ces deux parties. Alors j'ai la version courte et j'ai la version longue. La version courte, dans la version longue, c'est celle de l'Exode, Exode 20, 1, 17, où les 12 premiers versets, les 11 premiers versets, concernent exclusivement Dieu, le rapport à Dieu. Je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, tu n'as pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras aucune image sculptée, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Je suis un dieu jaloux, tu ne prononceras pas le nom d'Yahvé, ton dieu, à faux, tu te souviendras du jour du sabbat, etc. etc. C'est-à-dire que ce qui est premier, et qui est traduit en cours dans l'évangile de saint Matthieu, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Enfin, c'est plus condensé, mais au fond, ça veut dire que Dieu occupe la première place. Et que les rites que l'homme va opérer, les actions qu'il va opérer, les gestes qu'il va faire, les prières, etc., eh bien, va le rendre présent à cet ordre supérieur. Alors évidemment, étudier en eux-mêmes tous ces gestes paraissent ou peuvent paraître irrationnels, mais justement, investis de leur signification profonde, ils expriment, et même plus, vont conduire à ce lien avec le divin. Et puis dans la deuxième partie, il y a le rapport aux autres, qui dans la version courte donne « Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans la version longue, ça donne « Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. etc. » C'est une forme plutôt plus négative à partir de « tu ne tueras pas ». Mais effectivement, le lien entre les hommes, on pourrait dire que dans le deuxième point des 10 commandements, la religion va avoir une fonction morale de régulation des rapports entre les hommes. Elle va énoncer des valeurs qui sont ou qui se veulent être des valeurs universelles. Et qui vont structurer d'ailleurs les sociétés. Ils vont structurer finalement les sociétés. Alors évidemment, on pourrait dire que ces valeurs n'ont pas besoin de l'arrière-fond religieux, parce qu'elles se fondent en raison. Mais en même temps, il semblerait que lorsqu'elles ne reconnaissent pas leur origine religieuse, elles se dénaturent. Et là, je voudrais vous lire un texte un peu long. Je suis désolé, je ne vous l'ai pas mis parce qu'il était peut-être trop long. De Saint-Exupéry. Mais vous pourrez le retrouver dans Pilote de guerre. C'est un texte de Pilote de guerre. C'est l'avant-dernier chapitre et avant-dernier chapitre. Où, hein, donc Pilote de guerre. Où justement, Saint-Exupéry va condamner, va exprimer l'idée que l'humanisme athée a échoué. Que l'humanisme a échoué parce que justement, il a récusé son origine religieuse. Il a, on pourrait dire, vidé de sa substance originelle les valeurs qu'il prenait. Et il a oublié, dit-il, un acte fondateur de tout humanisme, à savoir le sacrifice. Alors je vous lis ce passage. Tant que ma civilisation, dit-il, s'était appuyée sur Dieu, elle a sauvé cette notion de sacrifice qui fondait Dieu dans le cœur de l'homme. L'humanisme a négligé le rôle essentiel du sacrifice. Il a prétendu transporter l'homme par les mots et non par les actes. Il ne disposait plus pour sauver la vision de l'homme à travers les hommes que de ce même mot embelli par une majuscule. Peu à peu, oubliant l'homme, nous avons borné notre morale au problème de l'individu. Nous avons exigé de chacun qu'il ne lésât pas l'autre individu, de chaque pierre qu'elle ne lésât pas l'autre pierre. Et certes, elles ne se lèsent pas l'une l'autre quand elles sont en vrac dans un champ, mais elles lèsent la cathédrale qu'elles eussent fondée et qui eût fondé en retour leur propre signification. Nous avons continué de prêcher l'égalité des hommes, mais ayant oublié l'homme, nous n'avons plus rien compris de ce dont nous parlions. Faute de savoir en quoi fonder l'égalité, nous en avons fait une affirmation vague dont nous n'avons plus su nous servir. Comment définir l'égalité sur le plan des individus, entre le sage et la brute, l'imbécile et le génie? L'égalité sur le plan des matériaux exige, si nous prétendons définir et réaliser, qu'ils occupent tous une place identique et jouent le même rôle, ce qui est absurde. Le principe d'égalité s'abattardit alors en principe d'identité. Nous avons continué de prêcher la liberté de l'homme, mais ayant oublié l'homme, nous avons défini notre liberté comme une licence vague, exclusivement limitée par le tort causé à autrui. Ce qui est vide de signification, car il n'est point d'acte qui n'engage autrui. Quant à la charité, nous n'avons même plus osé la prêcher. En effet, autrefois, le sacrifice qui fonde les êtres prenait le nom de charité quand il honorait Dieu à travers son image humaine. À travers l'individu, nous donnions à Dieu ou à l'homme. Mais oubliant Dieu ou l'homme, nous ne donnions plus qu'à l'individu. Dès lors, la charité prenait souvent figure de démarche inacceptable. Nous avons ainsi perdu l'homme. Et perdant l'homme, nous avons vidé de cette chaleur, cette fraternité elle-même que notre civilisation nous prêchait. Puisqu'on est frère en quelque chose et non frère tout court, le partage n'assure pas la fraternité. Elle se noue dans le seul sacrifice. Elle se noue dans le don commun à plus vaste que soi. Mais confondant avec un amoindrissement stérile cette racine de toute existence véritable, nous avons réduit notre fraternité à ne plus être qu'une tolérance mutuelle. Nous avons cessé de donner. Or, si je prétends ne donner qu'à moi-même, je ne reçois rien, car je ne bâtis rien dont je sois et donc ne suis rien. Si l'on vient ensuite exiger de moi que je meure pour des intérêts, je refuserai de mourir. L'intérêt d'abord commande de vivre. Quel est l'élan d'amour qui paierait ma mort ? On meurt pour une maison, non pour des objets et des murs. On meurt pour une cathédrale, non pour des pierres. On meurt pour un peuple, non pour une foule. On meurt par amour pour l'homme, s'il est clé de voûte d'une communauté. On meurt pour cela seul dont on peut vivre. C'est une page exceptionnelle. Enfin, c'est un résumé de plein de pages, en fait. Je n'ai pas tout dit. Mais il y en a comme ça sur plein de pages. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, toutes ces valeurs morales, dès lors qu'elles n'ont plus leur source, elles ne reconnaissent plus leur source, alors elles ne reconnaissent plus qu'elles ont commencé à travers la religion, mais qu'elles continuent de s'y nourrir. C'est-à-dire que finalement, au principe des valeurs, demeure ce rapport à Dieu. Parce que quand il parle de l'homme, c'est avec le grand H, c'est-à-dire celui qui se fonde en Dieu à travers les actes. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'il parle d'un acte. Puisque dans la religion, il est question d'actes qui vont être signifiants et qui vont réaliser ce qu'ils expriment. On meurt pour cela seul dont on peut vivre. Et donc, on pourrait dire qu'il y a un ordre supérieur qui va donner tout son sens à l'ordre inférieur et pour lequel, justement, on peut mourir et qui va nous unifier fondamentalement. On est alors loin, effectivement, ici, de la simple superstition. Cependant, on ne peut pas fonder la religion uniquement sur le sens qu'elle donne au réel. Il me semble qu'il y a la nécessité de la confronter, de confronter son contenu à la vérité dont est capable la raison, non pas pour ramener la religion à la mesure de la raison, mais bien plutôt pour en évaluer la possibilité. Et je donne rapidement la parole à un athée, qui est Paolo Flores d'Arquet, dans un dialogue qu'il entretient, c'est un livre d'entretien, enfin, il y a un entretien puis deux conférences, avec Benoît XVI, et qui s'appelle « Est-ce que Dieu existe ? Dialogue sur la vérité, la foi et l'athéisme ». Et dans sa conférence, dans son entretien, le dernier entretien du livre, à un moment donné, il nous dit ceci, « Et alors, si une religion n'est plus vraie ou fausse ? Si sa valeur ne dépend que du sens consolation qu'elle est en mesure de fournir à l'existence, comment séparer le bon grain de l'ivraie ? Comment distinguer une grande religion d'une misérable superstition ? Pourquoi le christianisme et pas l'astrologie ? Vu que pour ce qui est du sens, cette dernière semble fonctionner beaucoup mieux comme croyance de masse. Le critère de sens est impitoyable. Il conduit au subjectivisme le plus radical, à la fois comme baume de l'âme, à chacun son make-up religieux, à remplacer selon les modes et les besoins, en choisissant celui auquel, à un moment donné, réagira le mieux la peau de l'existence. Une religion du sens, plutôt que de la vérité, est une religion non plus de personne, mais de simple consommateur de sens. Cela ne suffit pas. Si le critère pour la religion était celui du sens, c'est-à-dire de n'importe quel sens, pourvu qu'il fonctionne, abstraction faite de la vérité, Freud et Marx auraient eu raison d'affirmer le premier que la religion est une illusion, le second, quel est l'opium des peuples et peut-être aussi des individus. Et donc, il exige de la religion de se confronter à la vérité de son contenu, de ce qu'elle professe. Et il me semble, parce que ça m'a toujours apparu comme ça, on pourra en discuter, mais il me semble que Il me semble qu'il faut s'attaquer à ce qui constitue la base de toute religion, à savoir la question de Dieu. Il me semble qu'on ne peut pas en faire l'impasse. Et avec une toute première question, est-ce que Dieu existe ? Parce qu'évidemment, s'il n'existe pas, à ce moment-là, bon, on va trouver une fonction à la religion, qui va avoir une fonction sociale, morale, de communauté, d'union entre les hommes, bon an, mal an. Mais ça reste une illusion, alors peut-être même nécessaire au point de vue psychologique. On voit dans les correspondances que Freud entretient avec le pasteur Pfeiffer que la religion a, on pourrait dire, une place particulière et très bonne pour comme domaine de la sublimation. Bon, très bien. Mais en même temps, ça reste une illusion à ce moment-là. Donc il faut s'attaquer à la question de savoir si Dieu existe. C'est mon troisième point. De l'existence de Dieu. Bon. J'ai 20 minutes pour vous convaincre. Prouver l'existence de Dieu. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus facile de le faire venir directement. Il serait son propre défenseur. En même temps, peut-être que ce ne serait pas crédible d'ailleurs. Parce que, de fait, comment est-ce qu'il peut se faire voir comme Dieu ? Puisque c'est moi qui dois le voir, comme homme, selon les modes habituels de la connaissance. Alors, si je vois qu'un homme, comment est-ce que je peux discerner Dieu ? Vous voyez ? Bon. Même s'il est ressuscité, compliqué. Quand saint Thomas dit « je veux voir », il ne va pas voir la divinité. Il va voir celui qu'il a toujours vu jusqu'à présent. Bon, il y a le beau tableau du Caravage où on voit il approche le doigt. Bon, très bien. Mais là, il pose un acte de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Et ça, c'est pas marqué. Là, ça clignote pas sur le front en disant bon, allez, t'as compris. Bon, c'est vrai que c'est sans doute très impressionnant. C'est peut-être beaucoup plus impressionnant. Bon, je devance sur la question raison-foi. C'est sans doute beaucoup plus impressionnant que l'Eucharistie. Où là, le signe est quand même très pauvre pour nos sens. Bon. Mais toujours est-il que voilà, bon, peut-être qu'il faudrait que je vous le fasse apparaître, mais je ne sais pas si ça changerait grand-chose. Essayons de passer un petit peu par le raisonnement. Il y a eu, disons, pour faire rapide, une preuve que je trouve très intéressante quand je la développe avec mes élèves sur la question, simplement pour leur faire prendre conscience que finalement l'inexistence de Dieu n'est pas non plus une évidence, quoi. Et c'est la fameuse preuve que Kant va appeler ontologique, qu'on rapporte à saint Anselme. Saint Anselme est avec ses moines, il est père abbé de l'abbaye du Bec-et-Loing, et il organise une retraite pour ses moines, et il veut absolument leur montrer que Dieu est tellement grand, tellement beau, qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre que de lui-même pour se prouver. Que finalement Dieu est une évidence. Alors, évidemment, on pourrait demander, mais pourquoi donc l'insensé a-t-il dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu ? Eh bien justement, parce qu'il est insensé. Parce que pour dire il n'y a point de Dieu, il faut bien quand même nier Dieu au nom d'une idée de Dieu. Je vous fais le raisonnement de saint Anselme. Il faut quand même nier Dieu au nom d'une idée de Dieu. Quelle est cette idée ? Eh bien, c'est l'idée d'un être parfait. Mais alors, si c'est un être parfait, forcément il existe. Parce que qu'est-ce que ce serait qu'un être parfait qui n'existe pas ? Il serait tout à fait parfait, il aurait toutes les perfections, mais c'est ballot, sauf la première, l'existence. Je serais plus parfait que Dieu parce que moi, au moins, j'existe. J'ai une perfection de plus que lui. J'existe, et lui, non. Et saint Anselme dit, c'est pour ça que l'insensé a dit dans son cœur, il n'est point de Dieu. Et qu'un autre moine va faire un traité qui va intituler « Pour la défense de l'insensé ». Il faut défendre l'insensé parce qu'il l'a quand même dit, d'abord, et puis donc que c'est toujours possible de le dire. Parce que justement, Dieu ne se donne pas comme une évidence. Je ne peux pas tirer l'existence de Dieu de son idée. Même si théologiquement c'est vrai, dans le cadre de la foi catholique, dans le cadre de l'enseignement de la foi catholique, c'est vrai parce que l'existence est contenue dans l'essence de Dieu. Saint Thomas dira, Saint Thomas d'Aquin dira, c'est une évidence en soi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une évidence pour nous. C'est la grande critique que je trouve très intéressante de Saint Thomas d'Aquin sur la preuve de Saint Anselme, c'est de dire il en fait une évidence en soi, il en fait une évidence pour nous, alors que, sans doute que théologiquement, c'est une évidence en soi, mais pas pour nous. Pour la simple raison que nous ne sommes pas capables de comprendre et de connaître l'essence de Dieu. Il faudrait qu'on puisse connaître et parcourir toute l'essence de Dieu pour y voir effectivement comme une évidence l'existence qui y est contenue. Or, nous ne pouvons pas. Donc, il faut une autre voie. Donc, il faut une autre voie pour prouver l'existence de Dieu. Et cette voie-là, c'est celle du monde. C'est là, on pourrait dire, la voie cosmologique. Celle que je vous ai... L'ordre du monde, la beauté du monde. Voilà. Je ne vous dis pas, et vous n'avez pas à regretter ce que je ne vous dis pas, donc je passe. Mais je vais au texte de saint Thomas d'Aquin, qui est celui du milieu, qui est la troisième voie, que vous trouvez donc dans la Somme théologique à la question 2, article 3. C'est pas mal quand même de commencer sa Somme théologique par « Dieu existe-t-il » parce que s'il existe, ça nous évite d'écrire tout le reste. Bon. Alors, du coup, c'est pas mal. C'est les fameuses cinq voies d'accès à l'existence de Dieu. Et je trouve que c'est important de pouvoir dire que ce sont des voies d'accès. C'est-à-dire que ce ne sont pas des preuves, ce sont des voies d'accès. Le raisonnement est très rigoureux. Il se fait selon un certain nombre de syllogismes. Bon, je vous ferai grâce de la forme du raisonnement. Mais donc, on pourrait dire qu'il a la forme d'une preuve. Simplement, ce n'est pas une preuve parce que, de fait, on ne peut pas prouver une existence. Je ne peux pas prouver que j'existe. Vous pouvez éprouver mon existence. D'ailleurs, vous l'éprouvez avec beaucoup de patience. Mais je ne peux pas la prouver. Nous, vous non plus. Nous ne sommes pas déductibles. Même nos parents, quand ils nous conçoivent, ils ont été hyper surpris de nous voir. Bon, sans doute hyper heureux, mais hyper surpris. Bon. C'est toi. Donc, voilà, on ne peut pas prouver une existence. Par contre, ce que saint Thomas dit, c'est des voies d'accès. Bon. Il en fait cinq. Je vous ai reproduit la troisième, qui me paraît, dans un temps limité, la plus simple. On va lire, et puis je vous donnerai quelques clés de lecture. La troisième voie se prend du possible et du nécessaire, et la voici. Parmi les choses, nous en trouvons qui peuvent être et ne pas être. La preuve, c'est que certaines choses naissent et disparaissent, et par conséquent ont la possibilité d'exister et de ne pas exister. Mais il est impossible que tout ce qui est de telle nature existe toujours, car ce qui peut ne pas exister n'existe pas à un certain moment. Si donc tout peut ne pas exister à un moment donné, rien n'a existé. Or, si c'était vrai, maintenant encore rien n'existerait, car ce qui n'existe pas ne commence à exister que par quelque chose qui existe. Donc, s'il n'y a eu aucun être, il a été impossible que rien commençât d'exister, et ainsi aujourd'hui il n'y aurait rien, ce qu'on voit être faux. Donc tous les êtres ne sont pas seulement possibles, il y a du nécessaire dans les choses. Or, tout ce qui est nécessaire, ou bien tire sa nécessité d'ailleurs, ou bien non. Et il n'est pas possible d'aller à l'infini dans la série des nécessaires ayant une cause de leur nécessité, pas plus que pour les causes efficientes, comme on vient de le prouver. On est donc contraint d'affirmer l'existence d'un être nécessaire, par lui-même, qui ne tire pas d'ailleurs sa nécessité, mais qui est cause de la nécessité que l'on trouve hors de lui, et que tous appellent Dieu. Ça fait beaucoup d'existence et de ne pas exister et d'exister. Hein. J'avoue que avant 9h, ça allait, mais là, il est 9h. Alors, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de clarifier les choses. D'abord, une remarque, c'est que, si vous avez remarqué, la conclusion n'est pas « donc Dieu existe ». La conclusion n'est pas « donc Dieu existe ». Et dans aucune des preuves, il y aura marqué « donc Dieu existe ». Mais il y a toujours de marqué, soit l'acte premier, le moteur premier, l'être nécessaire, le bien, la fin, et que tous appellent Dieu. Ou bien qu'on a l'habitude d'appeler Dieu, ou que les hommes ont toujours appelé Dieu. C'est-à-dire que la preuve va, ou la voie d'accès va exiger de notre raison qu'elle pose la nécessité d'un être nécessaire. Alors pourquoi ? Distinction entre être nécessaire et être contingent. Un être contingent, c'est un être qui peut ne pas être. Donc nous sommes des êtres contingents. La preuve, à un moment donné, on n'existait pas. Donc, on n'était pas. Et puis, à un moment donné, on existe. Et puis, à un moment donné, on n'existera plus. C'est à peu près sûr. Donc, on est un être contingent puisqu'on peut exister et ne pas exister. À l'inverse de l'être nécessaire. L'être nécessaire, c'est quoi ? C'est l'être qui ne peut pas ne pas exister. Vous voyez, j'ai une double négation. Qui ne peut pas ne pas exister. Qui est nécessairement. Qui existe nécessairement. Par conséquent, première partie de la preuve, première partie du raisonnement. Un être contingent, à un moment donné du temps, n'existait pas. Ce qui est le cas avant la date de nos conceptions mutuelles, réciproques, quand je parle de tout le monde. À un moment donné, on n'existait pas. Or, si tout peut ne pas, si on passe à la limite, si tout ne peut ne pas exister, alors ça veut dire qu'à un moment donné, rien n'a existé. Et si rien n'a existé, comment se fait-il qu'il y ait des choses qui existent ? Parce que le deuxième principe de toutes les preuves, en tout cas des trois premières, c'est que c'est du réalisme, je vois qu'il y a des choses. Je vois que nous existons, je vois que nous sommes ici, dans cette pièce. Donc si tout peut ne pas exister, à un moment donné, rien n'a existé, ce qui est manifestement fausse. Donc pour exister, il faut qu'il y ait du nécessaire, forcément. Or, il y a deux types de nécessaires dans le texte. Il dit, il y a... Or, tout ce qui est nécessaire, ou bien tire sa nécessité d'ailleurs, ou bien non. Pour ce qui est d'ailleurs, c'est notre cas. C'est-à-dire, à partir du moment où on existe, au moment où on existe, on ne peut pas ne pas exister. On existe ou on n'existe pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. Actuellement, tout le monde existe dans cette pièce. J'espère jusqu'à la fin. Mais tout le monde existe, nécessairement. Et c'est bien parce que, d'une certaine façon, de ce point de vue-là, nous sommes des êtres nécessaires, nous pouvons transmettre la vie à des personnes qui ne sont pas encore, qui sont, eux, contingents. Mais notre nécessité, nous ne la tirons pas de nous-mêmes. Nous la tirons de nos prédécesseurs, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc. Ou bien la nécessité, on ne la tire pas d'ailleurs. À ce moment-là, d'où est-ce qu'on la tire ? De nulle part, de soi-même. Or, c'est là que Saint Thomas conclut en disant, c'est un argument qu'on retrouve dans les deux premières preuves également, on ne peut pas remonter à l'infini. On ne peut pas remonter à l'infini dans les nécessaires contingents, dans les causes. Pourquoi on ne peut pas remonter à l'infini ? Parce que si on doit remonter à l'infini, comme l'infini c'est ce après quoi il y a toujours quelque chose, donc qui n'en finit pas, il faudrait qu'on attende que la cause antérieure soit posée, qui attende que la cause antérieure soit posée, et donc il faudrait que, si on remonte à l'infini, rien n'a été encore engendré, or le problème c'est que c'est faux puisqu'on est là. Donc on est contraint, intellectuellement parlant au moins, de poser un être absolument nécessaire. Qui tire sa nécessité, qui ne tire pas sa nécessité d'ailleurs, si ce n'est de lui-même, qui est nécessaire en lui-même. Et cet être nécessaire, c'est celui que on a appelé Dieu. C'est celui qu'on a l'habitude d'appeler Dieu. Alors évidemment, c'est très intéressant parce que le raisonnement est, me semble-t-il, assez puissant, assez logique. Simplement, évidemment, ça n'a jamais converti personne. Ça n'a pas de puissance de conversion. Simplement, ça met l'intelligence dans la nécessité de, au moins, de reconnaître que sur la question, dire qu'il n'y a pas de Dieu n'est absolument pas certain. Et normalement, ça doit incliner l'intelligence à reconnaître qu'il y a au moins un grand horloger, un être nécessaire. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la philosophie grecque, qui est tout à fait extraordinaire, chez Platon ou chez Aristote. L'idée finalement d'un Dieu qui est au-delà de tout, qui est autosuffisant, qui vit même d'une vie bienheureuse, qui réside dans la contemplation de lui-même. Il est tellement transcendant ce Dieu que nous ne pouvons, comme dit dans la République Platon, que nous présenter sur le seuil. On le voit sur le seuil. Il est passé, ce n'est pas le démiurge qui a fait le monde, il est encore au-delà, le démiurge le contemple. Et il est au-delà de tout. Et la plus belle page à laquelle je vous renvoie et que vous pourrez trouver dans le banquet sur la question de Dieu est absolument magnifique, sur la beauté, sa nécessité, son éternité. Il est au-delà d'une représentation corporelle, conceptuelle, etc. Et extraordinaire. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, dans la contemplation de ce principe-là, que Diotime dit à Socrate, c'est à ce point de l'existence que la vie pour un homme vaut la peine d'être vécue quand il contemple ce beau en lui-même. C'est un Dieu transcendant, impersonnel, sans doute, en tous les cas, avec lequel l'homme n'a pas de relation. C'est pour ça que on pourrait dire on est incliné à penser qu'effectivement Dieu existe. Il y a sans doute beaucoup plus de chances qu'il existe qu'il n'existe pas. Saint Thomas nous y aide. Mais si on se limite à la conception aristotélicienne de Dieu, on trouvera dans l'éthique à Nicomaque sur la question de l'amitié, c'est au livre 8, chapitre 9, on verra qu'il n'est pas possible d'avoir une amitié avec Dieu, parce que la distance est trop importante entre l'homme et Dieu. Mais par contre, l'intelligence peut, on pourrait dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste de vivre comme Dieu, dans une imitation de ce qui fait l'excellence du divin, savoir la contemplation, la théoria. Mais alors, à ce moment-là, ça ne permet pas à la religion, aux actes religieux, d'échapper à la superstition. Au fait que finalement, ils sont vides de sens dans la mesure où ils n'ont pas d'efficience, puisque la relation à Dieu n'est pas possible. De cette distance qu'il y a entre l'homme et Dieu. À moins que Dieu lui-même se révèle. À moins que Dieu lui-même se révèle, prenne l'initiative de se révéler, puisque la raison ne peut pas l'atteindre dans la vérité de ce qu'il constitue. Et c'est là où j'entre dans ma dernière partie, révélation et raison. Et vu qu'il est 9h10, je vous la lis. Puisqu'on s'arrête à 9h15 pour les questions qui ouvriront l'appétit de la galette. Je vous le rappelle. Parce qu'il y a des choses sérieuses quand même. Bien. Alors il semblerait effectivement que l'initiative doit venir exclusivement de Dieu. En effet, l'homme ne peut pas être à la source d'une relation réelle avec Dieu sans immédiatement tomber dans le travers de l'illusion. Le problème, d'une certaine façon, revient à Dieu. Si la révélation ne peut par elle-même être un simple discours de la raison, parce qu'elle fait accéder la raison à un ordre de vérité qui dépasse ses capacités, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a une certaine homogénéité entre la raison humaine et la raison divine. Ce que Dieu révèle de lui-même se doit d'abord d'être compréhensible par la raison humaine. Parce que si je ne peux pas comprendre la révélation, c'est quand même loupé de la part de Dieu. De la même façon que j'ai loupé ma conférence, si vous n'avez strictement rien compris. je ne sais pas si ce sera une révélation pour vous, mais voilà, dans la communication, il faut quand même que il y ait les choses sont reçues selon le mode de celui qui reçoit. Donc, étant donné que nous sommes, on pourrait dire, incarnés, que la médiation de notre connaissance passe par le corps, par les sens, etc. Bon, il faut que Dieu se donne à voir sous ce mode-là. Donc il faut bien qu'il y ait une certaine homogénéité entre la raison humaine et la raison divine. Ce que Dieu révèle de lui-même se doit d'abord d'être compréhensible par la raison humaine. En d'autres termes, il serait contradictoire de penser que la révélation abolisse la raison et interdise du même coup son usage. Car alors la révélation ne dévoilerait rien. Elle serait stérile parce qu'irrecevable. Entre Dieu et nous, entre son esprit créateur éternel et notre raison créée, il existe une vraie analogie dans laquelle les dissemblances sont certes assurément plus grandes que les ressemblances, mais toutefois pas au point d'abolir l'analogie et son langage. Voilà ce que dit Benoît XVI dans le discours de Ratisbonne, dont je vous ai mis un extrait qu'on va lire. Il existe une vraie analogie, une vraie proportion entre ce que Dieu révèle de lui et ce que je peux en comprendre. Les termes utilisés me permettent de comprendre la vérité de l'être qui se révèle. Et Benoît XVI précise bien, dans lesquels les dissemblances sont plus grandes que les ressemblances, mais pas au point d'abolir l'analogie et son langage. Si aucune proportion n'existait, il serait impossible de croire sans immédiatement renoncer à sa qualité d'homme comme être raisonnable. Et c'est ce qu'a voulu exprimer Benoît XVI dans le discours prétendument polémique de Ratisbonne, dont vous avez l'extrait. L'affirmation décisive dans cette argumentation contre la conversion au moyen de la violence est « ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu ». L'éditeur Théodore Coury commente « pour l'empereur, un byzantin, qui a grandi dans la philosophie grecque, cette affirmation est évidente. Pour la doctrine musulmane, en revanche, Dieu est absolument transcendant. Sa volonté n'est liée à aucune de nos catégories, fût-ce celle du raisonnable. Dans ce contexte, Coury cite une œuvre du célèbre islamologue français Amaldès qui explique que Ibn Hazm va jusqu'à déclarer que Dieu ne serait pas même lié par sa propre parole et que rien ne l'obligerait à nous révéler la vérité. Si cela était sa volonté, l'homme devrait même pratiquer l'idolâtrie. Et c'est là je souligne, ici s'ouvre dans la compréhension de Dieu et donc de la réalisation concrète de la religion un dilemme qui, aujourd'hui, nous met au défi de manière très directe. La conviction qu'agir contre la raison serait en contradiction avec la nature de Dieu est-elle seulement une manière de penser grecque, ou bien vaut-elle toujours et en soi ? L'enjeu, c'est la réalisation concrète, l'idée de Dieu et la réalisation concrète de la religion. Car si effectivement Dieu peut même commander l'idolâtrie, alors qu'est-ce qui permet de donner une certaine rationalité au rite, à n'importe quel rite? Et la raison qui suivra sera que cette réponse vaut toujours et en soi. Si tout dépasse la raison dans la révélation, rien ne lui est pourtant contraire. Et même l'action jugée par les hommes impossible ne participe pas pour autant de la catégorie de l'irrationnel. Même si c'est impossible, cela ne participe pas pour autant de l'irrationnel. Cependant, il est vrai d'affirmer que dans le cadre d'une révélation, les vérités atteintes ne peuvent pas être l'aboutissement d'un cheminement de la raison. Ce ne sont pas les conclusions d'un raisonnement. En sorte que la révélation exige comme réponse de l'homme la foi. Ne pas croire n'importe quoi, mais croire quand même. Et cette foi, cet acte de croire, va se rendre manifeste à travers des actes proprement religieux. Et c'est là que j'en viens à ma conclusion. La révélation ne va pas abolir les actes religieux, les rites, mais au contraire, leur donner tout leur sens, toute leur plénitude, et ce dans un double sens. D'abord, la révélation rappelle à l'homme qu'elle est une religion de l'esprit. Le rite n'est pas tout. Dans le passage de la Samaritaine, Jésus déclare « L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père ». L'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Ce qui compte, c'est l'engagement du cœur, c'est cette cohérence entre l'extérieur et l'intérieur, Et le rite doit donc venir exprimer une disposition intérieure qui est celle de la foi. Et c'est déjà présent, d'une certaine manière, dans la bouche de Socrate, qui dit à Alcibiade, dans le second Alcibiade, « Ce serait en effet une chose terrible si, pour juger de la piété et de la justice de quelqu'un, le regard des dieux se portait sur les offrandes et les sacrifices que nous leur faisons, plutôt que sur notre âme. » Donc, religion de l'esprit. Mais la révélation commande aussi le rite. Vous ferez cela en mémoire de moi, ou lavez-vous les pieds les uns aux autres. Il y a dans le rite une dimension de l'objectivité qui se fait jour. Alors heureusement que le site internet existe maintenant. Voilà ce que dit Marie Chazot dans un article absolument remarquable que vous pouvez trouver dans la lettre 37 du Collège supérieur. C'est le quatrième trimestre 2008. Vous pouvez le télécharger. Je vous n'en lis qu'un petit extrait qui va vous donner l'eau à la bouche. Dans le rite, dit-elle, je n'invente rien de nouveau. Je répète des gestes précis dont une tradition et une communauté ont fixé la signification, voire que le Christ lui-même a institué. Il n'est pas une extériorisation spontanée de ma foi personnelle, une action qui part du mouvement de ma propre nature. Je recueille un sens que je n'ai pas constitué. Je me confronte à une foi qui n'est pas la mienne, entre parenthèses celle de l'Église. Je me soumets même, dans le cas des sacrements, à une volonté tout autre, entre parenthèses celle de Dieu. Rien de cela n'aliène ma foi, mais la bouscule et fait éclater les formes étroites de mon sentiment. Le rite m'offrant un contrôle anticipé de ma pratique, un commentaire autorisé de ma foi, il permet une vérification impersonnelle de la vérité qui limite le danger d'une projection imaginaire. Fin de citation. Donc loin des actes de superstition, le rite et tous les actes religieux, notamment la charité, dans le cadre de la révélation, m'introduisent à une logique supérieure qui ne peut s'atteindre que par là. Cela exige la foi, foi qui va me placer toujours dans un déjà-là et un pas encore.